France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Fabrice Desmaz à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Jürgen Habermas, le philosophe de la délibération publique, on a dit qu'il était le dernier philosophe européen, le vieux sage de l'Europe, on a dit que c'était le Kant du XXe siècle, on a pu voir en lui le précepteur de l'Allemagne, celui qui rend le monde meilleur, avait titré l'Hebdo Die Zeit en 2019. Philosophe internationalement connu et reconnu, Jürgen Habermas ne l'est pas forcément du grand public, aussi avons-nous décidé de lui consacrer notre heure philo en compagnie de deux fins spécialistes, le philosophe Michael Fossel et la sociologue et philosophe Dominique Méda.
J'ai toujours été convaincu qu'il y avait une dimension cognitive dans la procédure démocratique. C'est pourquoi je suis l'un des premiers et des plus vigilants défenseurs de la démocratie délibérative. Et la démocratie délibérative amène évidemment au deuxième enjeu majeur de mon travail, la rationalité communicationnelle. J'ai toujours été convaincu qu'il existe dans la vie communicative quotidienne, dans la communication quotidienne aussi, une sorte d'encouragement à donner des raisons, à donner des réponses aux questions. Pourquoi as-tu dit ça? Pourquoi as-tu fait ça?
Jürgen Habermas évoquant quelques-uns des fondements de sa philosophie, mais on aura le temps d'y revenir au cours de cette émission. Michael Fossel, qu'est-ce que vous retenez essentiellement d'Habermas? Je sais que c'est pas facile comme question. Est-ce que c'est sa rigueur? Est-ce que c'est son obstination, sa lucidité, son courage, sa raison? On a dit que c'était le penseur de la reconstruction de l'Allemagne.
Alors,
c'est tout ça?
C'est un peu tout cela, mais je crois que même par rapport à l'extrait que vous venez de diffuser, quand il dit qu'il a toujours voulu penser la démocratie, il faut comprendre aussi dans le contexte historique ce qui fait cette nécessité. Ce qui fait sa grandeur, c'est lié effectivement à son âge, quelqu'un qui approche de 97 ans, c'est-à-dire quelqu'un, et qui est allemand, qui a traversé évidemment le XXe siècle et qui est né en 1929, dont la période immédiatement pré-hitlérienne. Et donc c'est un philosophe, comme vous l'avez très justement dit, de la reconstruction, il s'est lui-même nommé comme cela, reconstruction de quoi? Eh bien reconstruction de quelque chose comme d'un idéal philosophique démocratique, contre, évidemment, la période nazie, contre plus que l'égarement, quelque chose qui, pour un philosophe allemand, est effectivement tout à fait marquant. Comment expliquer, pas seulement pour un philosophe allemand d'ailleurs, mais pour lui en particulier, comment expliquer que la nation de Kant, que la nation de Hegel, que la nation de Goethe ait été, si j'ose dire, à l'avant-poste de la barbarie européenne. Et en plus, que des philosophes d'importance que Habermas a lu dans sa jeunesse comme Heidegger aient participé et même collaboré, si je puis dire, à cette barbarie nazie. Donc, reconstruction de quoi? Non seulement, je dirais, matériellement quasiment de l'Allemagne sur les ruines fumantes de la guerre, mais reconstruction d'une pensée de la démocratie fondée sur la raison.
Dominique Méda, même question pour vous.
Moi, je retiens plusieurs choses. Un philosophe qui donne toute sa place, qui redonne toute sa place à la politique et toutes ses lettres de noblesse à la politique, mais pas comme ça facilement. Il nous dit que la politique, ça se mérite d'une certaine manière. Il faut construire un espace public, il faut l'alimenter, il faut que les citoyens soient exigeants, s'impliquent. Et le deuxième point, mais d'ailleurs les deux sont liés, que je retiens, c'est tout ce qu'il a je dirais presque prédit en matière européenne. Je trouve sa pensée sur l'Europe extrêmement importante. Ça fait 30 ans qu'il nous dit qu'on doit dépasser l'État-nation, que l'État-nation est devenu trop petit, trop faible, et qu'on doit aller vers une construire une Europe fédérale, qu'on ne s'en sortira que comme ça, et que il faut donc une souveraineté, construire une souveraineté partagée. Il est tout à fait dans, alors j'allais dire dans la suite, mais non, c'est plutôt Céline Spector qui est dans la suite de Jürgen Habermas, mais dans cette idée que il n'y a pas un peuple, ça se construit, il faut une constitution, c'est pour ça qu'il a beaucoup soutenu l'idée qu'il fallait une constitution européenne. Il était très triste que ni la France, ni les Pays-Bas n'aient ratifié la fameuse constitution européenne en 2005. Donc voilà. Voilà, je retiens ces deux choses-là, le penseur de la démocratie et de la démocratie délibérative, le penseur de l'Europe.
Alors, quelques éléments biographiques. Alors, ça semble indispensable pour l'évoquer, non pas que ce soit anecdotique, mais c'est important. Et les auditeurs qui l'auront sans doute déjà remarqué en entendant sa voix, avec son élocution un brin entravé, perturbé, il est né, en fait, avec une malformation, Michael Fosset.
Oui, il est né avec une malformation, j'en parle volontiers, puisque lui-même l'a fait, qui n'est pas totalement anecdotique par rapport à sa propre pensée. C'était une malformation de la bouche, un bec de lièvre, comme on appelle ça de manière un peu vulgaire. Plusieurs fois opéré, dans les conditions évidemment des années 30 ou 40. Donc, il en a gardé une cicatrice d'abord, et puis effectivement une difficulté de prononciation, d'élocution qu'on a pu entendre. Et il raconte dans un des rares textes, c'est quelqu'un de très précautionneux relativement à sa propre biographie, hein, c'est pas un philosophe sentimental, je dirais. Mais néanmoins, il a expliqué dans un texte que ses premières expériences, et d'ailleurs tout à fait révélateur, d'enfance à l'école, était dans les années 35-36, donc sous Hitler déjà, et d'autre part, un sentiment de solitude, parce qu'il avait un défaut de prononciation.
Il a été raillé par ses camarades.
Il a été raillé, ne pouvait pas, alors ça c'est le point important, communiquer. Il était enfermé, c'est ce qu'il dit, dans une sorte de solipsisme, de solitude totale. Au moment même où la société allemande, il fait lui-même ce parallèle, s'enfermait dans une solitude, si je puis dire, de violence, se séparait de la modernité. Et donc, au fond, il a voulu penser, c'est le grand thème quand même de sa philosophie, c'est le concept, alors il faut bien faire attention, de communication, pas du tout au sens de publicité, ou pas de sens de réclame en tout cas, l'espace public, la publicité au sens de ce qui doit être débattu dans un espace relativement transparent, la délibération, la discussion, tous ces thèmes sur lesquels on reviendra, trouvent de manière certaine leur origine dans le destin de l'Allemagne des années 30. Il a été enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes, il a vécu cela, si je puis dire, de l'intérieur. Il fallait reconstruire, on l'a dit, et d'autre part, sans doute aussi, dans cette difficulté qu'il a eue à se faire comprendre de manière, je dirais, sensible. Et il a voulu, au fond, on pourrait presque dire, sans tomber dans le biographisme, reconstruire, c'est le philosophe de la construction, les conditions rationnelles d'une communication heureuse.
Un incompris, en quelque sorte, au départ, Dominique Méda.
Peut-être, mais je suis d'accord pour faire partir sa réflexion de ce texte qu'il écrit en 1961 hein, sur l'espace public, où pour la première fois, il développe les grands thèmes qui seront les siens, c'est-à-dire, il montre qu'au XVIIIe siècle, on a su construire les conditions d'un dialogue éclairé, où chacun peut amener ses raisons, les raisons pour lesquelles il soutient telle ou telle opinion. Enfin, tout au long de sa vie, il va essayer de soutenir, d'enrichir cette vision et de montrer envers et contre tout, je dirais, hein, que voilà, ce qui compte pour avoir une bonne politique, une bonne société presque, c'est d'avoir un espace public dans lequel on peut échanger, communiquer, échanger des raisons. Et il montre très bien, dans l'un de ses derniers livres qui les revient, que le système médiatique actuel, les réseaux sociaux, etc., ben, nous empêche désormais d'avoir cet espace public et de pouvoir communiquer réellement. Donc, nous empêche de devenir des véritables citoyens.
Et en fait, avant même d'entamer une discussion, il faut établir des règles.
Il y a des règles qui font que, implicites, quand nous discutons, ce que nous faisons là, mais aussi quand nous discutons, je dirais, d'une manière beaucoup plus encore détendue, il n'y a pas un micro, on ne fait pas trop toujours attention à ce que l'on dit, mais il y a des règles minimales qui font, implicitement adoptées, qui font que la discussion ne dégénère pas en violence, parce que l'autre de la communication, l'autre de la raison, c'est la violence dont, encore une fois, Habermas a été le témoin, je dirais, direct au niveau des guerres. Et par conséquent, il a interrogé ses conditions de possibilité. Par exemple, lorsque nous affirmons quelque chose dans le champ politique, une préférence, je dirais, pour tel ou tel parti ou telle mesure, il ne suffit pas d'arriver, comme on le fait d'ailleurs dans le système médiatique souvent contemporain et déjà à l'époque d'ailleurs de Habermas, d'arriver en présentant ça comme un dogme, il y a au fond toujours implicitement la nécessité en démocratie de pouvoir justifier, de chercher, pas forcément d'arriver, mais de chercher à justifier ce que l'on affirme, si l'on préfère l'égalité à la liberté libérale, par exemple, ou à la liberté d'entreprendre, bon, ou l'inverse. Et ce que Habermas a commencé par faire, c'est réfléchir aux conditions qui font que l'on peut justifier ces affirmations politiques. C'est ça quand il dit dans l'extrait tout à l'heure, il y a un rapport, c'est le terme est peut-être un peu technique, cognitif à la démocratie. La démocratie suppose un rapport à la connaissance. On suppose qu'il est que nous sommes capables, collectivement, d'élaborer des règles de justice. Habermas, c'est quelqu'un qui a réhabilité dans l'espace public, c'est 61, vous l'avez rappelé Dominique Méda, c'est-à-dire à un moment, ensuite il y a 68, un moment de contestation très forte, y compris de la modernité. Et Habermas, il a une formule, c'est le grand penseur de ce qu'il appelle les promesses non tenues des Lumières. C'est-à-dire, l'espace public, effectivement, il avait ses limites, c'était un espace bourgeois, c'était un espace masculin, c'était un espace réservé aux lettrés, mais il n'a pas voulu, si j'ose dire, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il a montré, c'est aussi très actuel, je trouve, que toutes les critiques de l'universalisme européen, tout à fait fondées, de l'européocentrisme, du fait qu'on a toujours eu tendance en Europe à confondre, y compris dans les Lumières, le bien avec nous-mêmes, toutes ces critiques se font au nom de l'universel. On peut critiquer les Lumières au nom des Lumières. Et il est le dernier grand penseur, à mon avis, des Lumières, je dirais, dont l'actualité est d'autant plus impressionnante aujourd'hui que nous entrons dans une période d'obscurité.
Je trouve que ce qu'il dit de très beau, c'est que dans la discussion, lorsque l'on amène ses justifications, on va apprendre des autres. Ce qui est intéressant dans la discussion, c'est qu'on doit arriver en étant prêt à écouter les autres, et c'est ça le côté cognitif, épistémique de la discussion, et on va apprendre quelque chose des autres, et donc on va pouvoir, comme ça, construire une forme de compromis, et ça aussi c'est très actuel.
Alors Dominique Méda, Michael Fossel, vous allez nous dire comment, dans quelles conditions, et quel texte vous avez découvert d'Habermas, mais avant, je voudrais qu'on écoute un extrait d'un de ses textes tiré de La technique et la science comme idéologie.
Dans la mesure où l'activité de l'État vise à la stabilité et à la croissance du système économique, la politique prend un caractère négatif. Elle oriente son action de façon à éliminer les dysfonctionnements, à éviter les risques susceptibles de mettre le système en danger, et non pas de façon à réaliser des finalités pratiques, mais à trouver des solutions aux questions d'ordre technique. La politique de type ancien était tenue de se déterminer par rapport à des buts pratiques, ne fût-ce qu'en raison de la forme de légitimation qui était celle de la domination. L'idée d'une vie bonne faisait l'objet d'interprétations qui étaient tournées vers des relations d'interaction. En revanche, la programmation de remplacement qui prévaut aujourd'hui ne concerne plus que le fonctionnement d'un système faisant l'objet d'un guidage. Elle évacue les problèmes d'ordre pratique et avec eux, par conséquent, la discussion concernant l'adoption de critères qui ne deviendraient accessibles qu'avec la formation démocratique d'une volonté politique. La solution des problèmes techniques échappe à la discussion publique. C'est pourquoi la nouvelle politique de l'interventionnisme étatique exige une dépolitisation de la grande masse de la population.
On ne s'interroge pas donc sur les valeurs que servent cette technique, cette science, qui sont devenues finalement une idéologie aujourd'hui.
C'est ça, c'est ce qu'il dénonce. Moi, c'est par ce texte que j'ai découvert Habermas.
Dans quelles conditions ?
Dans un moment assez particulier. En fait, j'ai fait des études de philosophie, mais j'ai plutôt fait de la philosophie classique, pas de la philosophie contemporaine. Et c'est quand j'étais à l'ENA que j'ai découvert ce texte qui m'a énormément aidée, parce que j'étais un peu bouleversée à l'ENA par la place qu'occupait l'économie et le fait que, justement, on n'interrogeait jamais, en quelque sorte, les doxas, les recettes qu'on nous proposait. Et ce texte m'a beaucoup aidé parce que il montre en quelque sorte la genèse de cette prise du pouvoir par l'économie, par la technique, par la technocratie, et il nous montre pourquoi on a oublié la politique. Et ce que j'appréciais énormément, évidemment, c'était le fait que Habermas nous montrait qu'il y avait un lien entre cette technicisation de la société et la dépolitisation de la grande masse. D'ailleurs, j'ai vu que dans son dernier ouvrage, il dit « j'ai peut-être été un peu loin en parlant de dépolitisation de la grande masse », mais il y a donc ce lien très important, et moi, ça m'a donné envie, évidemment, dans ma vie publique, d'indiquer qu'il fallait peut-être réduire la place de l'économie et du travail pour développer la place laissée précisément à la politique et à la discussion. Et donc là, dans ce texte, hein, il reprend un peu Max Weber et cette idée, comme vous le disiez, qu'il y a en fait deux types de rationalité, la rationalité instrumentale, et lui, il met le travail, par exemple, du côté de la rationalité instrumentale, et la rationalité selon les valeurs, et il reprend cette grande idée weberienne qui est que, eh bien, la rationalité instrumentale, c'est-à-dire la recherche de l'efficacité à tout prix, et en économie et nos sociétés modernes, elles font exactement ça, s'est imposée de plus en plus dans nos sociétés.
Et vous, Michael Fossel, par quel biais l'avez-vous
Je n'en ai pas un souvenir absolu, mais je pense que c'est, effectivement, j'ai aussi fait des études plutôt en philosophie classique, donc je faisais une thèse sur Kant, et vous l'avez d'ailleurs dit, on l'a parfois nommé le Kant du XXe siècle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré dans son texte, un de ses grands livres qui s'appelle « Discours philosophique de la modernité », où il répond d'ailleurs de manière assez vive à des philosophes comme Foucault, comme Derrida, qu'on a appelé à tort ou à raison post-moderne, c'est-à-dire qui ont fait en quelque sorte une critique de la raison. Habermas, c'est quelqu'un qui reconnaît justement au post-moderne, disons, pour employer ce terme un peu facile, la validité d'une critique de la raison, mais de la raison instrumentale, moyen-fin, la raison technique, la raison technocratique. Par contre, comme Kant, c'est quelqu'un qui essaie de penser un autre usage de la raison, une raison qui ne soit pas seulement une raison qui a pour but ou de connaître ou faire de la technique, une raison qui a pour moyen d'interroger les présupposés, les principes, les valeurs au nom desquels nous agissons. Et en l'espèce, ce qui a été lu de Habermas, c'est une critique, c'est pour ça que c'est bien que ce soit lu à l'ENA, ou ce qui en tient lieu aujourd'hui, de la technocratie.
Ah, c'était pas lu du tout à l'ENA.
Je le disais de manière
peut-être,
un peu ironique.
Peut-être ça l'est aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais à l'époque ça ne l'était pas.
Il serait bon de le lire, c'est-à-dire du problem solving, c'est-à-dire de cette conception selon laquelle, au fond, la question, nous ne pouvons plus, nous interroger sur le bien, et ça il l'accorde, effectivement nous n'avons pas une conception générale, heureusement, une conception universelle du bien, donc au fond il ne reste plus que les moyens, hein, c'est-à-dire le calcul du meilleur moyen d'obtenir par exemple la croissance, ou de se diriger vers un monde de plus en plus technicisé. Et la grande question de Heidegger, de Habermas, c'est est-ce qu'il n'y a pas un usage de la raison qui ne va certes pas nous permettre d'accéder au bien, méfions-nous de ceux qui veulent imposer à la société le bien, mais par contre un usage de la raison qui va nous permettre de décider de ce qui est juste. Il y a une différence entre le bien et le juste. Le juste, c'est une norme que nous partageons lorsque nous discutons, discussion, le rapport juste à la vérité, alors que le bien, c'est une conception beaucoup plus dogmatique qui, évidemment, tend à s'imposer aujourd'hui de manière confessionnelle.
Mais Heidegger, nous allons en parler parce qu'il a écrit Habermas, donc un texte très important, intitulé Heidegger contre Heidegger, c'était en 1953, on va en parler tout à l'heure.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent autant du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. De même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Göttingen, Barbara. Nous le disions tout à l'heure, il y a ce texte Heidegger contre Heidegger. Alors, il faut rappeler ce que ça veut dire pour un jeune homme comme Jürgen Habermas que d'être dans une Allemagne nazie, une université allemande dont on a dit qu'elle était corrompue à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui avaient eux-mêmes été d'anciens nazis, que le père même d'Habermas était plus ou moins sympathisant nazi, on peut le dire comme ça?
Oui, oui, enfin c'est quelqu'un qui n'a pas résisté, disons, voilà. Mm. Mais effectivement, il publie dans les années 50 un article dans un quotidien d'importance qui existe toujours, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. D'ailleurs, ça laisse rêveur qu'on puisse publier des textes à l'époque, des textes d'une telle difficulté sur Heidegger, qui est très important parce que à ce moment-là, il a dénoncé non seulement pour Heidegger, mais pour d'autres thèmes. Au fond, le mensonge qui a beaucoup marqué Habermas, c'est pas seulement la période nazie, c'est la période qui a suivi immédiatement la période nazie, où l'Allemagne n'a pas fait, à ses yeux, ça sera un fil conducteur de sa pensée, une autocritique suffisante de sa propre errance et même de sa propre criminalité. Donc il publie un texte sur Heidegger à un moment où l'engagement de Heidegger en faveur du national-socialisme était beaucoup moins connu, beaucoup moins discuté, beaucoup plus caché qu'il ne le sera par la suite.
Lui, il a tout de suite vu qu'il y avait en germe quelque chose de nazi, voilà, dans ses textes.
Ce qui l'intéresse, c'est d'abord, il reconnaît que Heidegger est un très grand philosophe, mais simplement, il s'intéresse à ce qui a pu rendre possible cette alliance entre, disons, le génie et la barbarie, d'une certaine manière. Mmh. Et il appelle ça les prophètes de la chair universitaire. Il s'en est toujours pris à la position, pas seulement sur Heidegger, à la position qui tente parfois à exister encore bien après, selon laquelle, au nom d'un savoir, ou d'un prétendu savoir, ou d'une position universitaire ou académique, se fait en quelque sorte le prophète, c'est-à-dire le représentant sur la terre de la vérité, du bien ou de la justice. Il a toujours animé, ce qui n'a pas toujours valu d'ailleurs à une très grande reconnaissance. Il a toujours refusé de prendre cette position, je dirais, de celui qui sait. Et par conséquent, il y a une certaine forme d'humilité dans sa pensée. Il faut le dire peut-être aussi pour nos auditeurs, s'ils lisent un peu Habermas, ils trouvent des textes de lui. Il y a même, c'est le point commun avec Kant d'ailleurs, un caractère quasiment rébarbatif dans sa lecture, au sens où c'est long. Ce sont des textes très longs.
Des détours et des détours,
parce que ce qui importe chez lui, c'est l'argumentation. Évidemment, il n'arrive pas en disant, avec une thèse qui soit fracassante sur l'histoire de l'être, sur la liberté ou l'égalité entre les hommes. Ce qui l'intéresse, ce sont ces détours, comme vous le dites très bien, qui sont absolument indispensables. C'est-à-dire, il ne suffit pas, l'évaluation ne porte pas sur ce que l'on dit, mais sur les raisons implicites qui nous font le dire. Et donc, effectivement, il traverse littéralement tous les arguments possibles. Il est comparable à un philosophe comme Paul Ricoeur en France, parfois dans sa lecture...
Qu'il
aimait beaucoup, et réciproquement. Et donc, en fait, ils veulent toujours la logique du meilleur argument, ce qui suppose d'étudier tous les arguments, ce qui rend effectivement sa lecture parfois un peu longue.
Marcel Gauchet n'aimait pas tellement ça, la façon dont il écrivait.
Ça n'est pas le même genre, effectivement.
Quant à Gilles Deleuze, il n'aimait pas sa modestie, la modestie d'Habermas.
Alors Deleuze, c'est... Oui, effectivement, Deleuze a une conception, mais bon, il détestait Habermas, effectivement, mais c'est pas la même chose que Gauchet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même conception de la philosophie. Au fond, on ne sait même pas s'ils font la même chose. Pour Deleuze, la philosophie, ça crée des concepts. C'est une sorte de spontanéité de l'invention. Il y a un rapport très fort chez Deleuze entre philosophie et art. Et entre le bien, le vrai et le beau. Alors que Habermas, non. Ça, Habermas, c'est le philosophe qui pense pas que la philosophie a une puissance comme ça de révélation. La philosophie a une dimension de fondation. Le philosophe est là pour fonder, c'est-à-dire essayer d'expliquer rationnellement le sens de nos paroles et de nos actes.
Dominique Méda.
Ben, je suis d'accord sur le fait qu'il est très humble. Il lit beaucoup, il explique son rapport aux autres auteurs. Par exemple, il a beaucoup travaillé, alors que je disais tout à l'heure, sur Weber, mais aussi sur Marx. Il a un rapport assez compliqué, changeant à Marx.
Du point de vue idéologique avec Marx?
Oui, parce bien sûr.
C'est un homme de gauche,
il en parle Habermas, beaucoup. Mais, par exemple, voilà. Il a écrit après Marx, et il réfléchit beaucoup sur ce qu'a proposé Marx, sur la place de la production, des forces productives, de la technique, et il va se détacher de Marx. Et il va reprocher, en fait, à Marx d'avoir, à un moment, il dit, la production a tout absorbé. Hein, c'est-à-dire, le monde de l'économie, du travail et de la production occupe toute la place, et au détriment de la politique, de la parole, de l'échange. Donc, il lit ses auteurs, il lit aussi, évidemment, son maître Adorno et Horkheimer, il lit Marcuse, et il se situe toujours par rapport à eux, il discute leur thèse, et c'est vrai que c'est très agréable parce que, moi, je trouve que c'est pas si difficile que ça à lire, alors à entendre, oui, mais à lire, parce que, précisément, il nous prend par la main et il nous mène jusqu'au bout dans sa démonstration. Il nous montre vraiment comment on avance.
Exactement. Alors, vous parlez d'Adorno, c'est l'occasion, évidemment, de parler de l'école de Francfort. Vous allez nous expliquer un petit peu, parce que je pense que tout un chacun ne sait pas forcément bien ce que c'est que l'école de Francfort. C'est Adorno qui l'a fait venir, et d'ailleurs, il lui a succédé après, dans cette même école, Michael
Fesset. Il a été l'assistant d'Adorno. L'école de Francfort, c'est une école qui est fondée par deux philosophes, Adorno et Horkheimer, dans les années 30, juste avant la prise du pouvoir par Hitler, qui repose sur ce qu'ils appellent la théorie critique. C'est-à-dire, c'est cette idée, pour le dire très vite, que le philosophe n'est pas, et ça, Habermas le conservera, le philosophe n'est pas là pour énoncer une théorie, je dirais, objective, descriptive du réel, pour nous expliquer au fond ce qui est. Pour cela, la science, finalement, s'avère beaucoup plus, les sciences sociales aussi, beaucoup plus efficientes. La théorie philosophique est toujours déjà critique. Autrement dit, cette idée qu'on a un peu perdue, c'est savoir quelque chose sur le monde social, savoir quelque chose sur le monde économique. Cela ne peut pas être simplement reprendre à son compte la manière dont le monde social fonctionne. C'est toujours porter un regard critique sur ce que, sur l'idéologie. Hein. C'est quand même quelqu'un qui, même s'il rompt avec Marx jusqu'à un certain point, conserve ce concept d'idéologie, c'est-à-dire ne pas être dupe de ce que la société dit d'elle-même. Voilà. Et la théorie critique, l'école de Francfort, fondée à Francfort, c'était cette espèce d'alliance entre une sorte de marxisme un peu orthodoxe, mais qu'ils ont justement transformé, et puis, ce qui apparaît très fortement, et ça intéresse ici la sociologie, les sciences sociales apparaissantes, c'est-à-dire quand on sait quelque chose sur un processus social, en même temps on porte toujours déjà un regard, ou en tout cas il faut porter un regard d'émancipation. C'est un grand penseur de l'émancipation.
Mais justement, de son temps, je dirais, il n'y avait pas de cours de sociologie. Sinon, il aurait pu en suivre aussi, non ?
Oui, mais...
Parce qu'il avait aussi un regard de sociologue sur...
L'école de Francfort était très sociologique.
Très sociologique,
suivait notamment Weber, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent quand même l'étude du capitalisme au centre de leur réflexion, et ils regardent vraiment ce qui se passe dans la société. Donc c'est vraiment de la philo-socio, c'est pas de la philo un peu détachée. Bah, l'école de Francfort, ils vont... Horkheimer et Adorno vont quitter l'Allemagne à cause du nazisme, et ils écriront un livre très important.
Adorno va s'exiler aux États-Unis.
Tout à fait.
Il deviendra d'ailleurs américain des années plus tard.
Absolument. Et en 1947 va paraître Dialectique de la raison, qui est un livre très important dans lequel Adorno et Horkheimer, en quelque sorte, font une genèse de l'histoire de la raison et montrent que la raison est devenue complètement folle. Et ils montrent la complicité, en quelque sorte, entre une raison instrumentale, calculante, et le capitalisme. Et il montre comment la domination des humains sur la nature s'est retourné contre les humains et nous a complètement anéantis d'une certaine manière. Et c'est ça, c'est avec ça que Habermas rompra un peu, c'est-à-dire Habermas, chez Adorno et Horkheimer, bah la raison devenue folle. Il y a plus rien à rattraper d'une certaine manière. Alors que Habermas, lui, va essayer de la sauver en montrant justement qu'il n'y a pas que cette raison instrumentale, mais il y a aussi une raison communicationnelle qui peut nous permettre d'une certaine manière de nous en sortir.
Adorno disait de Kant, pas d'Habermas, mais le secret de sa pensée est l'impossibilité de penser le désespoir. Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi d'Habermas, Michel Fossel ?
Absolument, parce que précisément, Adorno est un très grand philosophe du désespoir, en réalité. C'est-à-dire de la thèse que, selon laquelle la raison des Lumières, hein, parce que dialectique de la raison, ça traduit en fait, c'est une mauvaise traduction de dialectique des Lumières, ça veut dire effectivement, les Lumières se sont retournées contre elles-mêmes. La valorisation de la raison, elle a fini, c'est la thèse finalement très désespérante, dans les camps de concentration hitlériens. Et il y a quelque chose de désespéré dans le fait d'essayer de sauver quelque chose de la modernité. Et au fond, tout le geste de Habermas, qui était l'assistant d'Adorno, qui a donc...
Mais est-ce que c'est pas aussi une question de génération, pardon de vous, parce que la première génération de l'école de Francfort, si j'ai bien lu, et notamment vous deux, Dominique Méda et Michel Fossel, étaient plutôt pessimistes, hein, pas plus que ceux qui ont suivi.
Alors elle est devenue pessimiste, parce qu'en réalité, au tout début de la fondation, avant Hitler, dans les années 30, il y avait
Hitler,
le projet de la théorie critique, et ils ont pris de plein fouet, si je puis dire, et eux, de leur à l'état adulte, y compris dans l'exil, ils ont pris de plein fouet le désastre allemand. Alors, Habermas, lui, l'a vécu comme enfant, mais il a surtout essayé de ne pas... C'est un philosophe qui est, comme Kant, effectivement totalement allergique, je dirais, au désespoir. Ce qui rend d'ailleurs, d'autant plus marquant et peut-être inquiétant, les derniers textes qu'il a écrits récemment, qui sont des textes les plus sombres, je crois, de son œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
temps pour la planète, c'est ça que ça signifie pour nous tous?
Absolument, oui, et pour la démocratie... Et surtout, au fond, il a même, dans le tout dernier texte qui est publié à ce jour, qui est tout récent, novembre 2024, et il finit, ce sont ses derniers mots, il parle du divorce entre les États-Unis et la démocratie actuelle, hein, de Trump en conséquence. Il termine, je le cite de mémoire, le dernier paragraphe, c'est « Un homme arrivé à mon âge est obligé de constater l'échec de sa propre tentative ». Alors, là, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas forcément encore un désespoir, parce que la phrase d'après, immédiatement, c'est « il reviendra aux générations futures de reconstituer quelque chose comme une démocratie dans laquelle on pourra de nouveau avoir confiance, de renouer ce lien avec les promesses non tenues de la modernité ». Mais nous vivons plutôt un moment, pour Habermas lui-même, qui ressemble à celui des années 30, hein, que celui de le moment où Habermas a été le plus, à la fois le plus important et le plus critiqué par certains, c'était dans les années, disons, 80-90, où il y a eu, et Habermas y a peut-être un petit peu, il le dit lui-même, parfois peut-être un petit peu cru, une sorte d'ivresse démocratique. C'était la chute du mur, c'était l'idée qu'il y avait une compatibilité entre démocratie naturelle, entre démocratie et capitalisme. Eh bien, Habermas, il faut le reconnaître, bon, puisqu'il a largement vécu au-delà, aujourd'hui, il ne redevient pas marxiste, mais quand même, il redevient beaucoup plus critique sur justement le fait que le capitalisme vit une période historique aujourd'hui, Trump en est, si j'ose dire, le symbole, une période de divorce avec la démocratie, et que ces noces heureuses entre, je dirais, le marché et la liberté sont en train de s'éclipser.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi triste, voire même désespérant, de constater que la philosophie a au fond perdu, Dominique Méda, sa position un peu surplombante sur d'autres disciplines, c'est-à-dire que la philo, elle aurait dû organiser, là on en revient à ce qu'il disait des progrès techniques, mais le progrès scientifique. Or, ça lui a complètement échappé.
Alors, moi je dirais pas ça. Non. Je dirais au contraire que ce qui me fascine, c'est la manière dont il a accompagné tout le siècle. Et dans son actualité, je veux dire, il a commenté chaque événement. Par exemple, quand il écrit « Après l'État-nation » en 1998, c'est un dialogue avec Gerhard Schröder. Donc, il est en lien avec les responsables de parti, avec les syndicats. Bref, vraiment, c'est une philosophie qui, justement, n'est pas surplombante, ne donne pas des leçons de morale, mais regarde, s'intéresse au concret, aux événements politiques, accompagne et nous incite, justement, à prendre prendre certaines directions. Ce qu'il va faire sur la question européenne, ce qui me passionne complètement et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a 30 ans, il nous dit il faut faire l'Europe fédérale. Et il explique comment on va faire. Je trouve ça complètement, vraiment formidable.
Il a été très très critique à l'égard de Angela Merkel, en particulier lorsqu'au moment de la crise de 2008, là il a ressurgi sur la scène, Habermas, de manière assez virulente. C'est pas du tout quelqu'un de gauche radicale, hein, c'est plutôt quelqu'un proche de la social-démocratie, mais il a été extrêmement critique, il l'est toujours d'ailleurs, du refus allemand à l'époque, rappelez-vous, de l'intransigeance allemande en manière monétaire contre la Grèce, c'est-à-dire au fond le sacrifice de principes démocratiques à des principes de cupidité économique, et il est allé très fort dans cette direction en dénonçant, je me souviens très bien dans les années 2008, l'austérité de Schäuble à l'allemand, et en rappelant que l'Allemagne, ça c'est Habermas qui parle, pas moi, a des devoirs du point de vue de son propre passé, a des devoirs de solidarité européenne, qui est d'autant plus scandaleux qu'elle ne remplisse pas.
Il était d'ailleurs tout à fait hostile au réarmement de l'Allemagne, par exemple.
Oui, alors il a pris aussi position, ça a été moins compris à ce moment-là, au moment du début de la guerre en Ukraine, contre, ou en tout cas très critique à l'égard de, d'un fait politique qu'on commente assez peu en France, qu'il faudrait, qu'on soit pour ou contre, quand même commenter plus. On a une histoire qui, le réarmement massif de l'Allemagne. C'est quelqu'un qui l'a, alors on peut peut-être penser que c'est une histoire de génération, c'est quelqu'un qui, encore une fois, s'est socialisé, si je puis dire, dans l'après-guerre, c'est-à-dire dans l'idée d'une Allemagne qui renonçait à sa puissance militaire qui avait fait de tels ravages.
Mais comment est-ce qu'il... Dominique Méda.
Il a fait un texte, j'ai pas énormément suivi, mais il a fait un texte sur l'Ukraine et la guerre de la Russie en Ukraine, en disant que en gros, il fallait bien sûr aider l'Ukraine, mais qu'il fallait pas sauver l'Ukraine à tout prix, au risque de déclencher une guerre mondiale. Oui, voilà. Et si j'ai bien compris, j'ai pas très énormément suivi, mais ce texte a fait beaucoup.
Oui, il a fait un peu scandale parce que disons qu'il a étonné, mais après tout, c'est son droit. Il a étonné les gens qui étaient plutôt du côté de Habermas, donc le Parti social-démocrate allemand, puisque il a dit il a dit qu'il fallait par exemple considérer que la Crimée était russe, voilà. Bon, qu'on ne pourrait pas réenvahir la Crimée, qu'il ne fallait pas. Donc en fait, je suis partagé sur ces questions, mais c'est toujours l'argument, c'est pas tellement la thèse qui comptait. L'argument, alors il s'est vérifié, c'est que déjà pragmatiquement, la seule moyen d'imposer la Crimée ukrainienne, c'était une guerre que nous ne sommes pas prêts à faire. Mais surtout, l'argument fondamental, c'est que le réarmement allemand méritait à minima un débat. Une discussion, comme il le dit. Et de fait, il n'y en a pas eu, puisque c'est toujours dans la modalité de l'urgence guerrière que des décisions d'une telle importance se
prennent. Et l'ouverture d'un espace public offert à tous, c'est la démocratie. Oui, ça s'appelle comme ça, non ? Ou je me trompe ?
Tout à fait, l'échange d'arguments raisonnés.
Vous écoutez L'Heure Philo, Michael Fossel et Dominique Méda sont nos invités, et nous parlons du philosophe Habermas. Yalène Gonda, All About Me.
Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.
Make it all about me. I'll make it all about you. Girl, you must.
dans une interview qui vous a accordé, Michael Fossel, il me semble que c'est pour la revue L'Esprit, mais vous allez me corriger si c'est pas ça, il dit « Ma génération a été marquée par une profonde défiance envers elle-même, mais nous sommes mis en quête de ces obscurs gènes ennemis de la raison qui devaient avoir leurs racines dans leur propre tradition. » La raison qui prime tout, est-ce que c'est, on peut dire que c'était un militant de la raison, au fond?
Un philosophe, c'est... Là, je parle pour moi-même, c'est quelqu'un qui est capable de reconstituer quelque chose comme une unité du sens, globale du sens. Et d'une certaine manière, Habermas, c'est un philosophe systématique. Mais au sens, non pas où il a totalement compris qu'on ne ferait plus une encyclopédie à la Diderot ou à la Hegel, parce que simplement les sciences, la biologie, la physique se sont tellement spécialisées qu'on ne pourrait plus récapituler tout cela. En revanche, c'est un philosophe systématique parce que il a une conception de la rationalité, effectivement. C'est-à-dire, il a une conception qui fait que, de la raison, qui fait qu'elle a deux usages, pour le dire très vite, un usage technique, instrumental, le calcul, l'économie, disons, et un usage communicationnel qui est au-dessus du premier.
Alors qu'est-ce que c'est justement que cette raison communicationnelle chez Jung à Habermas ?
La raison communicationnelle, c'est l'instance à partir de laquelle nous sommes capables d'universalité. C'est-à-dire, encore une fois, il est kantien sur ce point de vue, lorsque j'affirme quelque chose, et même lorsque je fais quelque chose, lorsque j'ai une intention, je dirais, morale, politique, eh bien je dois être en mesure de la présenter de telle sorte qu'elle soit acceptée universellement, c'est-à-dire...
Donc le dialogue est toujours fragile.
Le dialogue est fragile et il présuppose des principes, et le principe fondamental, c'est le principe d'universalité, c'est-à-dire par exemple, c'est quelqu'un qui est totalement opposé à la raison d'État, à l'idée que c'est pour ça qu'il est très hostile à la guerre en général, c'est-à-dire qu'il y ait des politiques du secret. Nous devons discuter de ce qui est juste et injuste, par exemple en matière économique, en matière, migratoire par exemple, mais là, les avis divergent. Par contre, ce qui est fondamental, c'est que chaque fois que nous avons une opinion, ou qu'un État a plus qu'une opinion, un projet, il doit le présenter à l'espace public de manière à ce que tous puissent en avoir, c'est ça le principe d'universalité, non seulement une connaissance, mais puissent tendanciellement le partager. Par exemple, pourquoi le racisme est-il irrationnel ? Par principe. Évidemment parce qu'il a mené à des crimes sans nom, parce qu'il est inégalitaire, mais fondamentalement il est irrationnel car il n'est pas universalisable. Il est une négation de l'universel. On considère qu'une certaine race ou qu'une certaine caractéristiques de population sont exclues a priori de la raison. Donc on s'adresse à des êtres dont on ne reconnaît pas la capacité au dialogue. Autrement dit, ce qui rend le racisme non seulement intolérable, mais je dirais fondamentalement faux, contradictoire, c'est qu'il traite d'êtres humains en les excluant a priori et sans raison de l'humanité. Voilà le sens fondamental de la raison, l'interdit du racisme, du sexisme, de l'homophobie, c'est des discriminations, disons d'une manière générale, c'est l'interdit qui porte sur l'exclusion de l'espace public a priori d'une certaine catégorie de la population.
Dominique Méda, voilà un livre que vous avez entre les mains qui a été lu et relu parce que je crois qu'il est sacrément annoté, que vous étiez plongé dedans tout en écoutant Michael Fossel. Quel est ce livre ?
Alors ça s'appelle Écrit politique, il a été publié en 1990 et il y a dedans un texte qui m'a beaucoup intéressé aussi à l'époque, qui s'appelle « La crise de l'État-providence », parce que Habermas a beaucoup travaillé sur les questions du travail, de l'État social, et je relisais cette phrase qui est vraiment très inspirante, très intéressante. Il nous dit « Toutes les énergies utopiques se sont fixées au 19e et 20e siècle sur la société du travail. » Et il nous dit « Aujourd'hui, l'utopie qui se rattache à la société du travail a épuisé sa force de conviction, pas seulement parce que les forces productives ont perdu leur innocence, ou parce que l'abolition de la propriété privée des moyens de production ne débouche manifestement pas percée sur l'autogestion des travailleurs. Elle a surtout perdu son point de référence dans la réalité, qui était en l'occurrence la capacité qu'avait le travail abstrait à forger des structures et à donner sa forme à la société. » Ça, c'est quelque chose qu'il a défendu depuis très longtemps, depuis le premier texte dont on a parlé, La technique de la science comme idéologie, qu'en fait, la centralité du travail, c'est fini. Par exemple, dans le discours de la modernité que vous citez tout à l'heure, il annonce la fin prévisible de la société fondée sur le travail. Et il s'appuie sur un autre sociologue allemand, Klaus Hofer, qui lui aussi a déclaré à l'époque que le travail, en gros, c'était fini. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu ces textes, j'avais été très, très, très étonnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un dialogue, un travail avec un décalage temporel entre la France et l'Allemagne, avec quelqu'un comme André Gorz, Schwartz en France, qui travaille beaucoup, qui va publier beaucoup de livres entre 80 et 90 sur le travail et le fait qu'il faut par exemple mettre en place un revenu universel, cesser d'espérer que le travail sera libéré, et les Allemands qui développent un peu aussi cette même idée. Et sur ce thème, Jürgen Habermas sera critiqué par son propre disciple, Axel Honneth, qui lui dira que il n'a rien compris au travail et il n'a pas compris l'importance extrême que revêtait le travail pour les individus.
Alors ça tombe à pic parce qu'on va l'entendre, Axel Honneth, précisément.
Les sociétés s'établissent à travers les luttes pour la reconnaissance, entre des groupes en lutte pour le respect de leur propre conscience. C'est l'idée originale de Hegel que j'ai développée pour forger un concept de société qui me permet de montrer que notre société, comme toutes les sociétés, est organisée autour de ce que j'appelle des sphères de reconnaissance, ce qui signifie qu'elles incluent leurs membres en établissant des sphères dans lesquelles les membres ont la possibilité d'accéder à une reconnaissance mutuelle. De ce point de vue, je crois que j'essaye d'élaborer sur cette idée de la tradition de Frankfurt. J'essaye de la développer avec d'autres instruments et d'autres moyens. C'est aussi se départir d'Habermas qui restreint trop son modèle à un certain niveau seulement de ses formes de relations, le niveau du respect de soi qui peut découler de formes de communication.
Un commentaire, Dominique Méda ?
Oui, chez Habermas, hein, on a d'un côté le travail qui est du côté de la rationalité instrumentale, de l'autre côté l'interaction. Bah, le travail, voilà, il s'y passe pas des choses essentielles. Ce que dit Honneth, c'est non. D'accord, il fallait revoir ce concept de travail, peut-être le relativiser un peu. Il défend pas la centralité du travail, mais il nous dit les personnes qui manquent de travail, donc le chômage, c'est une expérience absolument essentielle. Et là, on fait l'expérience que le travail est très important. Donc, il amène une couche supplémentaire dans le travail qu'avait fait, de critique qu'avait fait Habermas, en s'appuyant, en revenant à Hegel et à cette notion, en effet, de reconnaissance avec la fameuse dialectique du maître et de l'esclave.
Il se cachait beaucoup.
Il refuse de faire des médias audiovisuels depuis quelques années en tout cas, bon peut-être aussi avec son problème d'élocution, et puis puisqu'il a quand même une critique qu'on n'a pas évoqué beaucoup, très forte des médias contemporains, bon surtout aussi des réseaux sociaux, qui précisément ne laissent pas le temps de l'argumentation, qui sont fondées sur l'affirmation, donc il y a aussi quelque chose qui renvoie à sa propre pensée. Ce qui est très notable, cela dit, c'est que même dans les dernières années, c'est quelqu'un qui, bon j'imagine est assez sollicité, mais qui répond voilà à 80, plus de 90 ans, répond à ses mails dans l'heure quasiment, donc il y a quelqu'un, il y a une forme de générosité aussi, et une forme d'adéquation qui n'est pas toujours évidente, disons, entre son comportement tel que j'ai pu moi en juger ou en entendre parler, et sa pensée.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout merci, cas évidemment merci. Il y a vos propres ouvrages, mais on met tout ça sur le site de l'émission. Merci beaucoup.
Merci.